Comment était ma vie avant de devenir religieuse? Alors, je suis devenue religieuse, je me suis fait religieuse vers 23 ans, 24 ans. Avant, j'avais une vie de catholique, pratiquante à la maison. On était d'une famille nombreuse, 9 enfants, et j'étais l'avant-dernière, la 7e. Et on avait une vie baignée de piété dans la vie, hein, c'est-à-dire joyeuse, bucolite, car la nature était notre temple, on était à la campagne. En famille, on allait à la messe tous les dimanches. Pour moi, ça c'était pas un problème, même c'était une heureuse rencontre avec le peuple de Dieu. Et j'aimais chanter, prier ensemble, j'étais très émue d'être à la messe. Nous faisions aussi la prière tous les soirs en famille. Et moi, personnellement, j'attendais ce moment avec émotion, avec joie. Notre chambre de filles, on était deux filles, les deux dernières, et deux garçons à côté, devenait un oratoire. Quelquefois, papa et maman nous faisaient faire la prière sur la terrasse. On écoutait le chant des oiseaux, on écoutait le bruit de la terre, le bruit de la campagne. C'était très, pour moi, très beau. Bon, j'aimais ces moments mystiques, empreints de fantaisie, de vérité et d'émotion. Alors, le mercredi après l'école, on allait à l'école à Castelfranc, dans le petit village, j'allais évidemment au catéchisme. Mais là, j'étais un peu remuante, un peu distraite, un peu espiègle. Il me tardait de quitter le catéchisme pour aller jouer dans la rue avec les filles et les garçons. Et un jour, un copain de ma classe, en se moquant de moi, m'explique que Dieu n'existe pas. C'est impossible que Dieu existe. Pour moi, ça a été un coup de poing dans le ventre. Je croyais que tout le monde était chrétien. Et j'étais très malheureuse, surtout pour lui, de penser que jamais il s'adressait à Dieu, que jamais il ne priait, qu'il avait oublié Dieu. Pour moi, c'était terrible. Je voulais faire quelque chose. Et le soir, j'ai longtemps pleuré de cette découverte de l'incroyance. Et puis, je me promettais alors, dans ma tête de 7-8 ans, de ne pas laisser Dieu tout seul, de lutter contre les infidèles. Voilà. Je partais déjà au combat. Je crois que ma vocation était déjà en germe, mais très enfouie profondément. Je ne pensais pas à la vie religieuse, mais aimer Dieu, le servir, pour moi, c'était naturel. Et il me semble que tout le monde devait être comme moi. Donc déjà, être confronté à l'athéisme, c'était une découverte malheureuse. Bon, ma vie d'adolescente a continué à la fois en famille, à la campagne, avec ce bonheur simple, bouleversé. Alors, quand même simple, mais tout de même bouleversé à l'âge de quand j'avais 11 ans, par la mort de mon frère Joseph, qui avait 18 ans, qui a été mal opéré et qui a dû laisser sa vie à 18 ans en pleine force. Ça a été pour moi terrible, d'autant plus que 2 ans après, ma sœur Thérèse, qui le suivait, est morte aussi, tuée par un accident scooter où elle n'était pas responsable. Et pour les parents, ça a été quelque chose de terrible. Moi, je l'ai vécu dans la foi, avec beaucoup de prières. Papa disait souvent, comme Job, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais j'étais bouleversée parce que maman était écorchée vive et ne pouvait pas tolérer que Dieu lui ait pris ses 2 enfants. D'autant plus qu'ils avaient déjà perdu une petite fille, Anne-Marie, à l'âge de 5 ans, que moi, je n'ai pas connue. Donc, ça faisait 3 enfants que le bon Dieu avait pris. Et maman est devenue enragée un peu contre Dieu. Enfin, surtout très, très douloureuse. Là, alors, c'était pour moi difficile de voir cette souffrance, cette peine de mes parents. Pourtant, digne et discret. Et ce fut un appel pour moi, peut-être à la compassion en ce moment-là, partager la souffrance des autres. Voilà, je voulais un peu être auprès de maman et de papa pour les consoler. Voilà, et je souffrais surtout parce que je ne pouvais pas les consoler. Je crois qu'il y a des situations, des épreuves où on ne peut pas consoler facilement les gens. Alors j'étais impuissante et j'étais là quand même. Pour moi, Dieu était quand même présent dans cette souffrance, toujours. Et lui, je sentais que lui me consolait. Alors plus tard, après, j'ai fini le cursus de l'école primaire, de l'école secondaire, Et puis après, j'ai passé le bac, donc. Et avant le bac, j'ai passé 2 ans chez les Sœurs de Notre-Dame du Calvaire, à l'école Notre-Dame. Mais là, j'étais, bon, le côté institution, il fallait que je rentre dedans, que je n'obéisse pas. Mais vraiment, j'aimais les cours de catéchèse. J'allais à la messe le matin un peu clandestinement, on n'était pas obligé d'y aller. J'avais une relation à Dieu toujours très forte. Et il y avait des sœurs que j'admirais en silence. Mais l'institution, le fait de marcher ensemble, d'avoir un uniforme, tout ça, je me bagarrais avec les filles aussi, qui étaient un peu, je disais, comment on dit, lécheuses, qui faisaient du forcing auprès des sœurs. Bon, je bagarrais, voilà. Mais ce n'était pas Dieu qui était remis en cause. Puis après, j'ai fait une année en Angleterre. Et là, pour moi, c'est une année de questions et de solitude. La famille me manquait, les frères et sœurs me manquaient. Pourtant, j'avais mon frère Henri qui s'occupait de moi. Mais lui, il était mondain, il était ambassadeur. Il m'invitait pour des soirées. Et moi, ça ne me disait rien de m'habiller, d'aller chez le coiffeur, de me faire une beauté. Vraiment, je ne me sentais pas appelée à ça. Donc, je me sentais une grande solitude. Et je ne savais pas ce que je voulais. De retour en France, je demande à faire des études d'art, parce que j'aimais toujours dessiner, et je pensais que les parents allaient dire non, parce que j'avais fait un an en Angleterre, littérature, et puis les langues. Je pensais que ça y est, c'était fini pour moi de faire des études d'art. Et à mon grand étonnement, mes parents me questionnent, et puis ils acceptent que je fasse les beaux-arts. Là, pareil, à Toulouse, confrontée à l'athéisme, encore une fois, et je perdais mes repères. Pourtant, mes études se passaient bien, je réussissais, j'étais amoureuse, mais je cherchais un sens à ma vie. Donc, je refusais tout, je m'isolais. Ça a été un peu pour moi, je dirais, je l'analyse comme une période de dépression, mais ça m'a fait du bien parce que rien ne m'allait, quoi. Rien ne m'allait dans les distractions, dans la vie facile. Voilà. Alors, je pense qu'en creux, Dieu m'appelait. Et je l'appelais au secours. Alors, il y a eu à ce moment-là des rencontres exceptionnelles qui, pour moi, ont été des appels. Je disais comme Charles de Foucault, « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous rencontre. » Et puis, bien sûr, j'ai eu quelques réponses. Des rencontres exceptionnelles qui furent des signes pour moi, des appels. Alors je me rappelle une jeune étudiante, quand j'ai fini le Beaux-Arts à Paris, qui m'entraîna dans un groupe de jeunes en recherche. Et là, ça a été pour moi un grand apaisement d'avoir une amie sincère. Et sa maman, la maman de cette amie, elle m'avait prise en affection. Et vraiment, elle me comprenait sans rien dire, et du coup je me suis confiée à elle. Et ça a été pour moi un grand apaisement. Je l'accompagnais à la messe, parce qu'elle elle avait 5 enfants, mais elle allait tous les soirs à la messe. Et un jour, en sortir de la messe, alors que je revenais chez elle, où j'allais dîner avec sa fille, elle m'affirme avec sérieux et confiance, elle me dit, mais vous ne sentez pas que Dieu vous appelle ? Alors ça, c'était comme si j'avais une explosion intérieure, que quelqu'un me dise ça, ça a été un coup de soleil qui rentre, mais je ne comprenais pas. Alors je lui ai demandé, mais comment on le sait ? Elle me dit, mais si, je sens que Dieu vous appelle, Dieu vous tient. Alors bon, pour moi, ça a été une ouverture d'esprit à cette mère de famille, elle a été mon accompagnatrice pendant un an, c'était une grâce. Et je découvrais au même moment, ma grand-mère est morte. Et ça a été encore une grande souffrance, toujours ce côté des gens qui nous quittent, et que j'aimais beaucoup, qui était un peu ma confidente aussi à la maison. Ça a été pour moi, elle est restée à l'hôpital, puis elle est morte. Un nouveau choc intérieur. Et alors, à ce moment-là, j'ai décidé de tout laisser, mes années d'études d'art, de beaux-arts, et j'ai dit je vais être infirmière, parce que j'avais passé du temps à l'accompagner à l'hôpital, et pour moi, découvrir le malade, j'avais envie de faire quelque chose. Alors là, je me suis dit, c'est pas possible. Les parents là, vont m'envoyer à la pêche. Ils vont pas comprendre cette nouvelle orientation. Et bon, je voulais donner ma vie au service des malades. Voilà, c'était pas donner ma vie à Dieu, mais d'ailleurs, d'abord au service des malades. Donc ce changement d'orientation, l'été, je me suis décidé à travailler pour payer mes études. Mais j'en parle quand même à mes parents. Et à ma grande surprise, papa et maman me questionnent avec sérieux et ils me font confiance. Et ils acceptent ma décision de reprendre des études d'infirmière, 3 ans d'études à Toulouse. Voilà, alors ça a été pour moi un tournant, une grave décision, mais je sentais que ça venait des profondeurs. Alors comment je suis devenue religieuse ? Alors pendant ces 3 années d'études d'infirmière, je sens que Dieu me tient par la main et m'aide à surmonter toutes les difficultés, parce que j'étais plus âgée que les autres, j'avais baroudé, j'étais allée à droite à gauche, j'étais fantaisiste, et le métier d'infirmière, c'est pas tout à fait pareil, mais dans mes études, vraiment, je m'applique et je sens que ça m'apporte beaucoup, que j'ai un contact profond avec les malades, que ça me questionne. Et puis j'apprends surtout la patience, le dévouement un peu silencieux, le soin aux autres. Et alors je me dis, bon, c'est là qu'est ma vocation, il faut que je pense à ce que m'a dit la maman de mon ami, il faut que je pense à tout ça. Mais dans quelle congrégation je vais entrer bon. Alors, à ce moment-là, je fais des stages hospitaliers. Et puis voilà que je suis envoyée chez les sœurs de Gramma. D'abord au Courdillon, alors que je faisais un mois d'études pratiques. Et on m'envoie au Courdillon sans que je l'ai demandé. Et puis là, je rencontre des sœurs, je ne m'y attendais pas. Donc, je vais un peu, quand il y a la messe, je vais prier avec elles sans rien dire. Et je suis très contente d'être environnée de religieuses. Je les regarde vivre, je les questionne. Et je partage un peu leurs réflexions, leurs prières. Pareil, l'été, je demande un stage dans le Lot. Et je me retrouve, on me permet d'aller faire un stage, non à l'hôpital. On veut pas que le directeur ne veut pas de moi à l'hôpital. Et du coup, je vais à la clinique du Quercy. Je vais me présenter en me disant que je vais voir si là on me prend. Et la directrice me dit avec plaisir, vous pouvez faire votre stage, vous serez au troisième avec une sœur, encore une sœur. Et là, avec cette sœur, j'ai beaucoup partagé, je me suis bien entendue. Elles avaient leur petit oratoire et puis leur petite maison à côté. Et très vite, sentant que je partageais un désir religieux, elles m'ont invité à partager leur repas, partager la spiritualité, les temps de prière. Elles avaient même une fois par semaine un temps de réflexion biblique, j'y allais. Voilà, alors ça a été pour moi un apprentissage à la vie religieuse, indépendamment de ce que je voulais, de ce que je me précisais encore. Je fais part de mon projet à ma famille. Alors là, ça provoque des divisions. Papa est fier, maman n'y croit pas, elle pense que j'étais manipulée, que je serais malheureuse. Elle me dit, tu as toujours aimé, tu voulais te marier, tu es toujours amoureuse, tu voulais avoir 12 enfants, qu'est-ce que c'est que ça, tu n'auras pas d'enfants, tu ne le supporteras pas. Bon, elle était très malheureuse pour moi et elle n'y croyait pas. Mes frères et sœurs, eux, sont surpris et conciliants. Et ils me questionnent beaucoup. Alors, mais ils me questionnent avec bonne volonté et moi je réponds simplement que depuis plusieurs temps, je sens que j'ai besoin que Dieu m'appelle, que j'ai envie de donner ma vie à Dieu pleinement, et que je partage la vie des religieuses là où je peux, et que ça m'apporte beaucoup. Un an après, alors je frappe à la porte de Gramma et je m'embarque pour la grande aventure. Voilà, le noviciat, le postulat, et là, je dirais, ça a été des moments de joie. Et maman s'est réconciliée avec moi, elle est venue voir comment on vivait. Elle a questionné les sœurs, elle a vu qu'on était libres et indépendantes, que j'étais épanouie. Elle me dit, bon. Alors, qu'est-ce que je fais comme religieuse ? Alors, aujourd'hui, je suis en communauté à Toulouse avec 7 sœurs, 3 françaises, 2 vietnamiennes, 4 françaises, 2 vietnamiennes, 1 ivoirienne. notre vie de communauté fraternelle et de prière, et notre vie missionnaire est un soutien, bien sûr, et puis c'est le propre de notre vie religieuse. Et nous sommes toutes aussi engagées différemment en Église. Pour ma part, je suis un peu impliquée dans la catéchèse, à la paroisse et dans différents groupes et dans plusieurs associations. D'abord, l'association Issia Pourquoi Pas, qui existe depuis 23 ans, qui aide des populations défavorisées d'Afrique, là où sont nos sœurs, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Guinée, où on fait des missions surtout pour les jeunes, parce qu'il y avait eu un appel d'une sœur pour faire un camp de jeunes quand j'étais aumônier de lycée. Donc on a monté cette association et ça continue. Maintenant, il y a beaucoup d'adultes aussi qui font des camps, qui aident. Depuis un an, nous sommes ouvertes aussi aux missions d'Asie, au Vietnam aux Philippines. Et au Vietnam, on vient de faire un mois en juillet de mission avec 30 participants, donc 21 jeunes de Paris et de Toulouse. Et ça, c'est formidable, voilà. Ce soutien scolaire et médical à l'étranger, en partenariat avec des adultes et des laïcs. C'est pour moi aussi une expérience de dépouillement, d'entraide, d'humilité, et de fraternité un peu avec tout le peuple de Dieu, les laïcs et les jeunes et les moins jeunes. Cela est très riche de rencontres, de découvertes. À Toulouse aussi, en communauté, nous nous retrouvons régulièrement pour un temps de prière, une fois par mois, qu'on appelle RAP, rencontre, accueil, partage, prière, où viennent des gens de la paroisse, des amis, des gens des jeunes, des moins jeunes, enfin toutes sortes de personnes avec qui nous sommes en lien. Et ça dure depuis quelques années, et après nous partageons un repas. C'est très fraternel et très, très fort pour les uns et les autres. Je participe aussi à des rencontres régulières de la communauté Foi et Lumière. C'est un mouvement qui s'occupe des personnes avec un handicap mental. Donc un samedi par mois, on se retrouve. Et donc j'anime avec une autre sœur de la communauté. Et c'est très riche d'être auprès des personnes trisomiques, porteuses de ce handicap. Et nous vivons là aussi beaucoup de joie, dans la joie, la tendresse, l'humour aussi. Avec des jeux, des danses, des repas partagés, des activités, surtout la messe. Nous sommes accueillis dans une paroisse et c'est toujours festif et priant aussi. Voilà. L'Eucharistie nous rassemble aussi. Voilà. Pour certains d'entre nous, pour certains de ces jeunes handicapés, c'est le seul moment qu'ils ont de rencontre amicale et de rencontre dans la foi. Si on n'était pas là, ils sont dans un environnement qui n'est pas porteur, où ils sont seuls. Voilà. Alors, ce que j'aime dans cette vie, bon, j'aime qu'on soit en communauté pour des priorités qu'on partage, l'accueil de rencontres dans la foi, dans la prière, par l'Eucharistie. Et l'accueil de gens, d'amis ou de personnes qui viennent frapper à notre porte. Pour moi, ces liens d'amitié, de rencontre et de prière communautaire, de partage et de service sont essentiels. Après, je fais partie de l'aumônerie en EHPAD avec d'autres sœurs et ça rejoint ma vocation calvarienne, c'est être auprès des personnes âgées, de nos aînés. Voilà, c'est pour moi une force et ça rejoint ma vocation première. Marie se tenait debout près de la croix avec le disciple bien-aimé Jean et d'autres femmes. Alors un dernier mot, pour moi cette solidarité en Église, je dirais que parfois cette douloureuse joie de Marie au calvaire est le gage de la vérité de ma vocation et de ma réponse à l'appel de Jésus, viens, suis-moi. Et il me faut toujours renouveler cet appel au gré des rencontres et des circonstances, des besoins de la congrégation et de l'Église. Mais avec saint Paul, je redis souvent, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Voilà, je suis toujours dans la barque, même si elle est secouée par vents et marées. Je sais que le gouvernail est tenu par un autre et que le cap reste le ciel. Nous jetterons ensemble l'ancre à la fin du voyage. Mais ce n'est pas pour demain.
Moi, j'ai suivi, j'ai rajouté des trucs.